Salut Simon, comment vas-tu?
Ça va bien toi, Dan?
Oui, ouais, ça va très bien. Évidemment, le sujet partout au Québec actuellement, c'est qu'est-ce qui arrive avec Carey Price? Est-ce que tu as une réponse pour nous ce soir dans l'avant-match?
Ben, une réponse, non. Comme tout le monde, hier, j'ai regardé le match, puis de voir le Canadien où ils sont placés présentement au classement, malgré un bon début de saison, les voir là, qui sont dans on l'appelle ça la wild card, là, dans le meilleur deuxième, puis qui sont des gars comme de Washington, Pittsburgh, qui se rapprochent tranquillement, pas vite, Philadelphie aussi, puis que t'as pas ton meilleur gardien, ton joueur de concession qui a signé 8 ans, 10-12 millions par année. Tu poses beaucoup de questions, ça c'est sûr. Moi je me mets à la place d'un joueur de concession. On va prendre Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh qui lui dit physiquement je me sens bien, mais mentalement non, je vais prendre offre à soir. Puis c'est ton joueur, c'est ton capitaine, ton joueur de concession. Tu le payes 9-10 millions par année, puis il est pas là quand c'est un match important. Ce match-là que le Canadien a perdu hier, c'est peut-être ce 2 points-là qui va manquer à la fin de la saison pour être dans les séries. Alors, un gros point d'interrogation. Puis quand il est dans les filets encore, je peux comprendre qu'il il joue pas bien, ça va pas bien, on va mettre Niemi dans les buts, mais on est-tu d'accord que Carey Price est bien meilleur que Niemi, même s'il est ordinaire, là, tu sais?
Mais non, mais Simon, Niemi peut pas garder la moitié des matchs d'ici la fin de la saison pour le Canadien. Il a 35 ans, c'est un numéro 2. Un numéro 2, c'est pas un numéro 1. Puis le Canadien ne pourra pas faire les séries avec Antti Niemi si Antti Niemi garde une game sur deux d'ici à la fin. Là.
Ça, c'est sûr. Les Canadiens sont allés chercher Niemi pour police d'assurance, que c'est un gars qui va embarquer dans les filets, aller te voler un match une fois de temps en temps. Mais tu peux pas lui demander de gauler 3 matchs de suite.
Non.
Numéro 1. C'est que je veux dire que c'est pas normal que quand tu as un match important comme ça, que ça soit Niemi qui goal une troisième game de suite ou deux games de suite.
Ouais.
Même si Carey Price, je peux dire, oui, mentalement, il l'a mis que mentalement, il n'est pas là. Mais c'est pas grave. C'est un Carey Price. Même si quand, au début de l'année, quand Crosby marquait pas de but, il jouait pareil. Tu sais, son hockey était pas à 100%. Il jouait pas comme Crosby qu'on est capable de connaître, mais il s'est sorti de la haine, comme qu'on dit, en jouant des matchs, puis c'est ton joueur, ton meilleur joueur d'équipe, tu le veux dans le line-up. Puis moi, je m'en rappelle, faire une comparaison, je m'en rappelle, j'étais blessé, puis l'entraîneur m'a dit, j'aime bien mieux avoir un Simon Gagné blessé à 80% que caler un gars des mineurs qui est à 100%. Tu sais, on a une meilleure chance avec Gagné dans l'alignement qu'un gars des mineurs. Fait que tu compares ça un peu, j'aime bien mieux avoir Carey Price dans les filets que Niemi hier. Contre des gars comme McDavid puis Dwight Zandrol, une équipe offensive. Fait que, tu sais, c'est très inquiétant d'un côté parce que quand Carey Price est dans les filets, moi, c'est encore Dan, on s'en est parlé en début de saison, et son langage corporel était vraiment questionnant l'année passée. En début de saison, on s'est dit, Colin, là, il a de l'air à être énergique, il bouge bien, il a de l'air à être content d'être dans les filets, il se bataille, il fait la première arrêt, mais il essaie de pas se refaire battre sur le deuxième retour. Puis là, présentement, qu'est-ce que je vois de lui? Ben, c'est le Carey Price de l'année passée, nonchalant, fait la première arrêt, mais le deuxième lancé qui s'en vient est tout le temps en retard. Tu sais, son langage que parlait, j'aime pas ça encore. Ça me fait penser beaucoup à l'année passée. Puis, c'est très inquiétant du côté du Canadien de Montréal. Une chance qu'ils ont eu un bon début de saison. Parce qu'il a regardé, le classement à matin aujourd'hui, là. T'as des équipes qui s'en viennent en arrière d'eux autres, puis quand on le sait, tous les matchs sont importants, puis ça va être dur pour le Canadien de Montréal si Carey Price ne retrouve pas ses moyens le plus rapidement possible.
Aucun doute, et moi je me questionnais hier à savoir qu'est-ce qu'il fait en Alberta s'il ne garde pas les buts. Tu sais, à un moment donné, le deuxième gardien d'une équipe, il fait tous les voyages, puis il sait qu'il ne gardera pas les buts. Lui, c'est le gardien numéro 1, il s'en va en Alberta, il ne gaude pas à Edmonton. Là, évidemment, avec la contre-performance de Niemi, et soit dit en passant, les auditeurs à l'écoute de mon émission ce soir, j'en veux pas Antti Niemi pour sa contre-performance d'hier. Il gagne 950 000 par année, il faut le mettre dans l'équation. C'est le gardien numéro 2, puis quand il garde les buts, il fait tout ce qu'il peut. Mais il n'y a pas le talent des gardiens numéro 1 dans la Ligue nationale, même s'il a déjà gagné la Coupe Stanley. Donc là, il faut que Price garde les buts, ouais. Et à Calgary, et à Vancouver samedi. Puis il faut qu'il redevienne un gardien numéro un. Moi, je suis même pas capable de garantir aux auditeurs ce soir, comme Louis-Jean le fait dans mon émission lundi, que Price va retrouver ses repères puis va redevenir un gardien de premier plan. Je suis même pas capable de garantir ça. Mais il faut que pour le Canadien, Price redevienne un gardien numéro un s'ils veulent avoir un bel hiver.
Ben oui, ça c'est sûr. Puis tu sais, je reprends l'exemple que j'ai dit tantôt. Tu vas en avoir des saisons difficiles, tu vas en avoir des périodes que ça va pas bien. Puis tu sais, quand t'es un joueur de hockey, un avant ou un défenseur, t'as le gilet sur le dos puis t'es pas sur le banc là, t'embarques sur la glace puis t'es le meilleur joueur de l'équipe comme Crosby ou Malkin ou Ovechkin qui passent une séquence difficile, ils sont sur la glace puis ils vont tout faire pour se sortir de là. Oui, ça peut être difficile pendant une semaine ou deux, mais à un moment donné, ça va débloquer. Puis c'est pas en étant sur le banc, comme tu dis, être le backup, puis t'es là en plus. Tu dis oui, t'es, mentalement ça va pas bien. Peut-être que, je sais pas, tu devrais être comme tu dis, peut-être à la maison.
Ouais, ou en train de consulter.
Je sais pas, là, tu sais, ouais. Quelque chose. Mais là, d'être là, d'être habillé, puis t'es payé 10-12 millions par année, puis t'es un leader, puis le joueur de concession, le meilleur joueur, le joueur le plus important de ton équipe, puis t'es sur le banc pendant que tu vois ton équipe jouer contre les Oilers d'Edmonton, le meilleur joueur de la ligue qui est l'autre bord.
Pas de sens.
Puis t'es pas là, tu sais, j'ai de la misère à ça. Crosby est là, Malkin est là toutes les games, Ovechkin est là, McDavid est là, même si l'année passée, son équipe allait pas bien, il était là. C'est ça, j'ai de la misère avec ça. Mais en même temps, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la glace avec. En tout cas, on n'embarque pas dans des sujets que je veux. Ça me tente pas de partir des humeurs, mais c'est très, très inquiétant de voir ça du côté du. Parce que qu'est-ce qui est le plus frustrant là-dedans, c'est le Canadien, là. J'ai bien pareil. Et ils ont un super de bon début de saison. Les gars se donnent, sont beaux à avoir joué. Puis tu sais, je suis pas un fan du Canadien,
ouais.
Mais cette année, ils sont le fun à regarder. Leur avantage numérique, le puck bouge. Ils ont un beau système de jeu. Puis si Carey Price goulait à 80% de ses performances, le Canadien ne serait pas en train d'être sur le bord d'être sorti là, de la wildcard. Il serait peut-être dans les trois meilleurs de leur division. Puis là, en plus de ça, tu as Weber qui s'en vient. Mais là, c'est inquiétant de voir que quand ton meilleur joueur est pas dans le line-up match après match, il se passe de quoi là, puis ça c'est des choses, je pense que le monde dans la chambre d'hockey savent, l'organisation savent, mais nous autres malheureusement ben on essaie de deviner qu'est-ce qui se passe là.
Exact. Martin Saint-Louis, Martin Brodeur ont été intronisés au Temple de la renommée du hockey lundi. Je suppose que tu as côtoyé Martin Brodeur avec l'équipe du Canada et Martin Saint-Louis avec le Lightning, c'est ça?
Oui, mais Martin aussi, Martin Saint-Louis en 2006 aux Olympiques, puis en 2004 à la Coupe du Monde. Martin Brodeur, ben, c'est ça, en 2002, là, à Salt Lake City. Martin était mon chambreur, là, dans le village olympique, là. On avait chacun des chambres, là, puis, on était par deux, là, dans le village. C'est là que j'ai appris à connaître Martin, puis, développer une amitié, mais aussi une amitié entre ma famille et sa famille, parce que tu sais, on n'était pas beaucoup de Québécois. Tu avais Mario Lemieux qui était là, mais notre famille sont connues là-bas. Puis à toutes les fois qu'on avait la chance d'aller souper après les parties, après une game, ben on s'amassait les deux familles ensemble. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui cette année-là. Puis par la suite, on a gardé contact. Puis tu sais, pas les Flyers contre New Jersey, on jouait dans le temps, on jouait 8 fois un contre l'autre là, dans les débuts des années 2000, c'est qu'on se voyait souvent, puis très bon gars, c'est sûr, je pense que le monde l'a vu, mais c'est un gardien qui était pas comme les autres gardiens. La plupart des gardiens sont bizarres, tu sais, avant les parties, faut pas que tu leur parles, faut pas que tu touches à leur équipement, mais Martin, lui, des fois, tu te demandais s'il allait gauler à soir, si ça allait être le backup, tellement qu'il parlait beaucoup avant la game. Puis des fois, il restait 10 minutes avant le warm-up, il était même pas déjà habillé. Il arrivait, puis il s'habillait, puis il continuait à parler. Fait que c'est des choses que tu voyais vraiment pas avec un gardien normalement. Puis écoute, c'est un gars qui adore la glace, avait du fun, puis c'était, tu veux pas, c'est un des plus grands, ou sinon le plus grand à avoir gardé les buts.
Oui.
Très content pour lui de qui a eu cet honneur-là.
C'est-tu un gars qui te donnait de la difficulté à marquer des buts?
Ça va être bizarre qu'est-ce que je te dis, Dan. Oui et non. C'est probablement le gardien que j'ai marqué le plus de buts dans ma carrière.
OK.
Et comme je te dis, on jouait au début de ma carrière, on jouait 8 fois contre New Jersey.
Ouais.
Fait que, une fois, tu sais, t'as plus de chances à marquer quand tu joues contre une équipe 8 fois que tu joues contre une équipe une fois dans le temps. Là, on jouait une fois seulement contre Los Angeles, admettons. Fait que,
ouais. Tu sais,
j'avais plus de chances de marquer contre lui, mais en même temps, il y avait plus de chances de m'arrêter. Fait que, quand j'étais dans une séquence, comme on dit au hockey, on est hot, là. Puis mettons comme Max Domi présentement du Canadien, on dirait que tous les lancers qui pognent, on dirait que ça rentre dans le filet, mais je savais que j'étais capable de le battre. Mais quand j'arrivais dans une séquence, que, oh, ça faisait 3-4 games que j'avais pas scoré, puis là on s'en allait jouer au New Jersey en plus, là. Je savais que probablement max séquence de 3 matchs allait tomber à 4 matchs, là, tu sais, contre Martin. Fait que c'était un bon challenge. On avait du fun, puis en plus après ça, après 2002. Lorsqu'on est devenu chum un peu, ben c'est encore plus fun. T'sais, on se textait, pis on s'est capté avec ça. Puis il savait un peu mes moves en breakaway. Puis c'était plaisant. On avait un bon challenge amical.
C'est quoi ton souvenir de Martin Saint-Louis? Martin Saint-Louis, c'est l'exemple du gars persévérant. C'est l'exemple du gars qui s'est fait dire toute sa vie qu'il était trop petit pour performer dans la Ligue nationale. Puis lundi, il a fait son entrée au Temple de la Renommée. Les médias n'ont pas une très bonne relation avec Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis n'a pas l'air de vouloir tant collaborer avec les médias. Il y a plusieurs représentants des médias, incluant moi-même, qui n'ont pas eu des bonnes relations avec Martin Saint-Louis. Est-ce que tu mettrais ça sur le dos que c'est un gars renfermé?
Non, pas au contraire. Martin, je sais pas si c'était une carapace qui se faisait avec les médias, mais je suis d'accord avec toi que chaque entrevue que je voyais Martin faire à la télévision, je trouvais qu'il avait de l'air froid, tu sais, qu'il avait de l'air pas de bonne humeur, mais je pense que c'était de la façon qu'il voulait s'exprimer aux médias. C'est peut-être la façon que Martin... tu sais, avant les parties, c'était un gars qui était funny, relax, mais lorsque la game commençait, il embarquait vraiment dans sa bulle, puis il devenait vraiment compétitif, un peu à la Maurice Richard, si on peut dire, avec les yeux, être malin, puis se fâcher seulement quand les choses vont pas bien, ou le dire, tu sais, pas être gêné de dire à ses adversaires, let's go les gars, là, faut se botter de derrière, faut mieux jouer que ça. Fait que c'est peut-être... vous parliez vraiment aux joueurs et non peut-être à la personne lorsque vous faisiez une entrevue avec Martin Saint-Louis, mais j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui, encore là un chic type, un ami avec qui je garde contact encore, puis écoute, le passage qui, tu sais, le monde je pense l'ont vu, mais il était à quelques jours de s'en aller jouer en Europe, et que la Ligue nationale était peut-être à une couple de jours de perdre un Hall of Fame, si on peut dire, un des joueurs qui a marqué la Ligue nationale, puis le Lightning de Tampa Bay, il lui a donné de la chance, puis c'est Martin lui-même qui a dit, regarde, moi je sais que j'ai le talent, puis il est allé cogner à la porte à Tortorella, puis il a dit, regarde, laisse-moi une chance, une game, d'aller sur l'avantage numérique, je vais te montrer ce que je suis capable de faire, puis moi je joue sa première, deuxième ligne, puis Tortorella il a aimé ça, puis il a donné sa chance, puis il l'a pris, fait que c'est vraiment... oui, le Lightning l'a signé, l'a emmené là-bas, mais il ne jouait pas beaucoup là-bas au début. C'est vraiment lui que, tu sais, ça démontre le caractère de la personne. Il l'a dit aux jeunes hier à la fin de son speech que de tout le temps croire, de jamais lâcher,
ouais,
même si les portes se ferment,
ouais,
de trouver une fenêtre ouverte
c'est
à quelque part pour essayer de rentrer. Puis,
ouais.
Ça a été vraiment une super bel exemple pour les jeunes. Puis il y a beaucoup de jeunes qui jouent dans la Ligue nationale maintenant aujourd'hui, des petits joueurs. Que tu vois que c'est probablement grâce à Martin Saint-Louis qui sont là.
Et tu parles de Tampa Bay, et avant Tampa Bay, il a essayé d'évoluer avec les Flames de Calgary. J'aimerais ça avoir une jasette avec le dirigeant des Flames qui, à l'époque, n'a pas cru en Martin Saint-Louis. Tu sais, ça me fait penser à une entreprise qui va à la banque, puis ils vont chercher du financement pour lancer un restaurant. Puis finalement, ça fonctionne pas, puis ça devient un des restaurants les plus populaires de la ville ou bien de la province. T'sais. On entend souvent des histoires comme ça de jeunes qui sont allés à la banque, puis la banque voulait pas leur prêter d'argent, mais ça ressemble un peu à ça, Martin Saint-Louis avec Calgary. Finalement, il a pas eu sa chance, puis ça a débloqué ailleurs, mais ça a pas débloqué à peu près. Là.
Non, non, exactement. Puis je pense que ça a été une source de motivation pour lui encore plus de montrer à cette équipe-là qu'ils ont fait une erreur. Puis, tu sais, des fois, tu sais, je pense que tous les joueurs de hockey ont passé par là, peut-être à part des exceptions comme Crosby, McDavid, les Gretzky, les Lemieux, mais chaque joueur de hockey ont tout le temps pas eu une petite période dans leur carrière que t'as l'impression que je sais pas, t'es rejeté ou le coach t'aime pas, mais tu veux après ça lui montrer que regarde, je sais pas, après une échange, que tu veux montrer qu'ils ont fait une erreur. Puis je pense que Martin, c'est avec plusieurs autres choses, s'est servi de tout ça là, pour performer par la suite, puis montrer que beaucoup de, pas juste les fans de Calgary, qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait une erreur en signant pas ou le repêchant pas.
Simon, 30 secondes avant de te laisser, les Kings, l'équipe avec laquelle tu as gagné la Coupe en 2012, c'est la pire équipe de la Ligue nationale. Ça doit te faire drôle de voir ça. Aujourd'hui, on fait une transaction mineure. Tanner Pearson qui s'en va à Pittsburgh contre Carl Hagelin. C'est des ailiers de troisième trio qui sont échangés. Hagelin a un peu plus d'énergie que Pearson. Je pense que tu as sûrement joué avec Pearson à l'époque où vous avez gagné la Coupe.
Pearson, non, il était pas avec nous autres. Il était dans les mineurs.
Okay,
il est arrivé par la suite, je pense, en 2013 ou 2014. Je le connaissais pas. Oui, je l'ai vu dans les camps d'entraînement, mais écoute, je pense que c'est un changement d'heure pour lui. Va l'aider, puis peut-être jouer avec des gars comme Crosby, Malkin, Castle. Je pense que c'est le style de chance que deux équipes se cherchent présentement. Rutherford l'a dit, c'est certain qu'il va y avoir un échange si on ne commence pas à gagner. C'est pas le style de GM qui lance des affaires puis qu'il ne le fera pas. Puis du côté de Los Angeles, il faut qu'il se passe quelque chose aussi. Puis en même temps, Pederson va nulle part. C'est un gars, je pense, qui reste 3 ans, 4 ans,
3 ans.
Je pense que du côté des Kings, tranquillement pas vite, si les choses ne se replacent pas, je ne serais pas surpris de voir plus de chances puis de partir l'autre bord. Ça fait une couple d'années là, que ça boite là-bas à Los Angeles, malgré le noyau de joueurs qui est excellent, mais il y a une masse salariale quand même assez élevée. Mais encore là, du côté de Los Angeles, Dan, tout passe par Jonathan Quick, puis malheureusement, ce gardien de but depuis qu'il a gagné la Coupe Stanley en 2014 est beaucoup plus blessé. Fait que, va falloir qu'il pense à quelque chose d'autre, parce que quand il se blesse, l'équipe va nulle part.
Okay.
Oui, l'année passée, ils ont eu le boulard qui a aidé un petit peu, mais il va falloir qu'il y ait de ce côté-là aussi. Là.
Parfait. Gros merci, Simon. Bonne soirée à toi.
Ça fait plaisir, Dan, toi aussi. Merci.
Salut bien. Simon Gagné, chroniqueur de l'avant-match chaque mercredi, évidemment ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. On parlait des Pingouins et des Kings qui ont procédé à une transaction mineure aujourd'hui. Les Kings, c'est la 31e et pire équipe de la Ligue nationale depuis le début de la saison avec 11 points. Pour les Pingouins qui ont perdu 4-2 hier devant les Devils, ils se sont inclinés dans 6 de leurs 7 derniers matchs. Et comme Simon l'a mentionné, Jim Rutherford, le DG des Pingouins, qui a d'ailleurs signé une prolongation de contrat de 3 ans aujourd'hui. Il a 69 ans, un véritable guerrier du monde du hockey. Monsieur Rutherford avait dit la semaine dernière, si ça ne change pas, il va y avoir du changement. Il a procédé à une transaction aujourd'hui, transaction mineure, mais quand même, un premier changement pour les Pingouins.